Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Nous voici donc à nouveau dans nos lectures en liberté pour la suite du roman de Maya Kanaan Mako, Avant qu'elle s'en aille. Son monde. Lorsque nous rentrons de cette épopée, elle part s'allonger. Je sais qu'elle va dormir longtemps. La santé physique de ma mère tient à son sommeil. Elle ne connaît pas l'insomnie. C'est une dormeuse insatiable. Je m'installe sur son canapé au milieu de ses souvenirs. Cette pièce recèle tous ses trésors. Son univers dans 15 mètres carrés, au sein de la maison de celui qu'elle a épousé. Des livres en français, en russe, en italien, en anglais. De jolis objets rapportés d'Orient et d'Asie. Des disques, beaucoup de disques, Bach surtout, mais aussi du jazz et du blues, des photos apparues au fil du temps ces dernières années, des photos de nous, de nos enfants et d'enfants inconnus du bout du monde, photos colorées qui ont la même place dans son antre que celle de sa propre famille. Et puis, il y a cette boîte très ancienne qui contient toutes les lettres de ceux qu'elle a aimés au cours de sa vie. Elle y a collé une étiquette avec mon nom, car ma mère fait de moi la dépositaire de tous ses trésors. Elle dresse des listes de tout ce qu'elle veut que je garde après ma mort, et souvent, en soulevant un livre, je découvre un petit papier collé dessus où il est écrit « Pour Maya ». Je devine alors que ce livre-ci lui est plus précieux que les autres. Dans un tout petit cadre discret sur l'étagère, une photo de mon père et moi retient mon regard. Je la prends pour la voir de plus près. Nous sommes assis sur un banc dans le jardin des orangers. Rien de flamboyant. Nous sommes légèrement voûtés, modestes. Il me serre contre lui. Il porte un blouson de sport crème. Le même que ce jour de septembre quelques années plus tard, c'est l'aube, une belle aube de fin d'été. Rome est endormie, le quartier est calme. Ma mère m'a tiré du lit pour lui dire au revoir. Mon père repart travailler en Chine alors que nous nous installons de nouveau en Italie après une longue période à l'étranger. Il est encore en poste à Pékin, mais nous avons décidé de faire notre rentrée scolaire à Rome, où il doit nous rejoindre dans 4 mois. Jean Selim a 15 ans, j'en ai 13. Après les vacances d'été passées en Chine puis en France, il nous a raccompagnés pour que nous nous installions à nouveau dans l'appartement que nous avions laissé à une amie pendant les 3 ans passés loin de la ville éternelle. C'est notre dernière séparation, puisqu'en janvier, il sera à la retraite. Nous nous penchons tous les trois sur la rambarde du balcon pour le voir partir. Mon père est toujours impeccable. Chemise en coton d'Égypte faite sur mesure, pantalon à plis. Il doit être en train de mettre ses gants en cuir, ceux-là même qu'il porte toujours lorsqu'il prend le volant. Il lève la tête, tourne vers nous son visage doux, ses yeux fatigués nous sourient. Il nous fait un signe de la main, puis démarre. La voiture disparaît derrière l'immeuble mitoyen. Douceur. Après sa sieste, ma mère entre dans la pièce. Elle s'assied à côté de moi. La photo est posée sur l'accoudoir du canapé. Elle la prend, la regarde longtemps et se tourne vers moi alors que je suis parti dans mes rêveries. « Tu n'aimais pas ces absences, » dit-elle. Puis elle ajoute « Dès qu'il partait en mission, tu commençais à l'attendre. » Je n'en reviens pas de l'entendre parler de nous. Jamais elle ne m'a dit un mot sur lui, sur nous, sur ce qu'elle avait compris de notre tendresse. Elle continue « Et dès qu'il était là, tu vivais à nouveau. » Elle prend ma main, la caresse et se rendort à côté de moi. Petite respiration, souffle régulier, sifflant, je me cale sur son rythme. Son cœur fatigué résiste. Elle mise sur le fait qu'il lâchera avant que sa tête ne l'ait abandonnée. Pourtant, ni son souffle au cœur, ni son arythmie ne l'ont mise à terre. Le processus de grignotage de sa mémoire avance. La lutte est engagée, tenace, féroce. Elle résiste encore par tous les moyens et elle tient. Avec la lecture, même si désormais chaque livre reste des mois sur sa table de nuit, avec la presse française et italienne, Le Monde, ou le Corriere della Sera, qu'elle lit de la première à la dernière page tous les jours, avec un Scrabble quotidien. Bien que l'italien ne soit pas sa langue maternelle, ma mère met un point d'honneur à battre son mari romain. Elle tente de reculer le moment où elle va sombrer, vaillamment optimiste. Elle se dit qu'un cœur, ça lâche d'un coup. Je la connais assez pour savoir qu'elle partira avec cette élégance-là. Je la suspecte d'avoir prévu d'arrêter ses médicaments lorsqu'elle sentira qu'elle est sur le point de perdre la bataille. J'aimerais avoir encore un peu de temps avec elle maintenant que sa mémoire défaillante ouvre les portes d'une sensibilité gardée enfouie. Et j'entreaperçois, avec cette phrase pleine de douceur sur mon père et moi, évocatrice d'une mémoire lointaine, que je touche à une part de ma mère dont elle s'est privée toute sa vie et dont, par conséquent, elle nous a privés. La part manquante. La famille de ma mère. 10 mois après sa naissance, alors que ma mère ne sait ni marcher ni parler, ma grand-mère est déjà accaparée par un nouveau-né. Ma mère est l'aînée d'une fratrie de 7. Elle a ainsi assisté à l'agrandissement de la famille, naissance après naissance. Alors, dès qu'elle l'a pu, elle a pris la tangente. Elle est d'abord souvent partie chez ses grands-parents maternels, dans l'appartement de la rue Roquépine qui jouxte le temple où son grand-père officie en tant que pasteur. Chez sa cousine chérie, place des Ternes, dont la famille demeure tout de même moins nombreuse que la sienne, puis plus tard en pension à Grenoble et enfin beaucoup plus loin en Amérique, laissant très tôt à ma marraine, de 3 ans sa cadette, le rôle de grande sœur responsable, de petite mère dont elle ne voulait pas. Elle était pourtant très reconnaissante d'avoir été élevée et aimée dans cette tribu, très heureuse de cette famille soudée. mais ce n'était assurément pas le modèle qu'elle souhaitait reproduire. Elle m'a toujours donné l'impression d'avoir une certaine répulsion à l'égard de la maternité, à cause de l'entrave que cela induisait. Combien de fois l'ai-je entendu dire à sa mère « Pauvre maman, quelle vie elle a eue !» Au troisième enfant, il était si fatigué qu'on a cru qu'elle allait y passer. Cependant, lorsque nous avons grandi, elle a eu envie que nous connaissions ce qu'elle avait aimé des grandes familles, les vacances entre cousins, les grandes tablées, les jeux dans le jardin, les balades à vélo, les baignades à marée haute et la pêche à pied à marée basse. Pour nous, pas pour elle. Elle s'installait dans un transat au fond du jardin avec ses livres et nous ne la voyons pas des vacances. J'imagine qu'elle avait besoin de ce calme, comme lorsqu'elle était adolescente, et qu'elle s'enfermait dans sa chambre pour s'isoler, pour ne pas entendre le brouhaha des petits. Noël en France. Nous avons 7 et 9 ans. Cette année-là, nous sommes montés fêter Noël en famille, chez mes grands-parents maternels dans l'Eure. La maison est grande. Les pièces qui donnent sur la rue sont inhabitées et sans l'humidité. De l'autre côté, celles qui surplombent le jardin clos et son saule pleureur sont un enchantement. Nous vivons dans celle-ci. Les 6 frères et sœurs de ma mère, leurs conjoints et mes 23 cousins germains sont réunis. Nous les connaissons mal. Jusque-là, nous avons passé la plupart de nos vacances en Égypte ou dans le sud de l'Europe, dans des maisons de location. Ma grand-mère est déjà atteinte de la maladie d'Alzheimer. Ses phrases sont hésitantes, parfois incohérentes. Lorsqu'on lui offre un parfum, elle croit que ce sont des chocolats et fait mine de se régaler. Nous, les enfants, trouvons ça très drôle et elle rigole avec nous. Son chignon tiré contraste avec son regard tendre et son bon sourire. Elle a en elle quelque chose de volontairement burlesque. Elle a gardé sa fantaisie. C'est sa façon à elle d'être au monde, de faire face au meilleur comme au pire. Peut-être est-ce pour cela que je l'observe au milieu du brouhaha, peut-être aussi parce que je suis intimidé par tout ce monde. Je la suis donc du regard et je vois bien qu'elle rôde, s'approchant d'un groupe, puis s'en éloignant, ne sachant trop comment s'immiscer dans une conversation qu'elle n'arrivera de toute façon pas à suivre. Alors quand l'agitation se fait trop grande, elle se dérobe discrètement. Je la suis. Personne ne nous remarque. Nous trouvons refuge dans sa chambre, elle me sourit. Elle tire la chaise de sa coiffeuse et s'assied tout au bord en équilibre. Je m'installe sur son lit. Elle s'approche de la commode sur laquelle est conservée sa collection d'automates. Ce sont de petits animaux en peluche, principalement des ours. Elle me regarde, malicieuse, puis tourne lentement, méthodiquement, la petite clé que chacun a dans le dos.
S'accompagnant d'un doigt ou quelques doigts, le clown se meurt. S'accompagnant d'un doigt ou quelques doigts, le clown se meurt. Sur un petit violon et pour quelques spectateurs. Sur un petit violon et pour quelques spectateurs. Ma che m'ha fatto di male sta povera creatura? Ma che m'ha fatto di male sta povera creatura? Ma che ci avete da ridere portagli iettatura? ma che c'avete da ridere, portaie e tatu. D'une petite voix comme il n'en avait jamais eu, d'une petite voix comme il n'en avait jamais eu, il parle de l'amour, de la joie sans être cru. Il parle de l'amour, de la joie sans être cru. Si vous ne comprenez pas, 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 almeno non ridete, au moins ne riez pas. Almeno non ridete, au moins ne riez pas. Ouvrez donc les lumières, puisque le clown est mort. Ouvrez donc les lumières, puisque le clown est mort. Et vous applaudissez, admirez son effort. Et vous applaudissez, admirez son effort.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
À nouveau ensemble pour la suite du roman, avant qu'elle s'en aille. Nous assistons alors à la mise en mouvement des automates. L'un porte un verre à sa bouche, pendant que le suivant se peigne et qu'un autre commence à faire claquer des cymbales. Il y en a un qui frappe sur un petit tambour. Son voisin se met à danser et le dernier fait du tricycle. Ils sont beaux et précieux. Ma mère entre en silence dans la pièce. Elle s'allonge sur le grand lit, passe les mains derrière sa tête pour observer avec nous ce ballet apaisant. Cet hiver-là, nous prolongeons notre voyage jusqu'à la côte normande, là où certains membres de la famille passent depuis des générations leurs vacances d'été. Un de mes oncles, le plus proche de ma mère, sa femme et leurs enfants y ont une maison. Mes parents projettent d'en faire notre lieu régulier de vacances. Nous ne connaissons pas encore bien la France, encore moins le pays de Caux. Nous arrivons tous les quatre dans la Renault 21 familiale avec laquelle nous avons fait le voyage depuis Rome. Elle risque à tout moment de s'embourber sur le petit chemin de terre menant à la maison que nos parents veulent visiter. C'est une petite ferme normande à l'entrée d'un hameau. Lorsque nous sortons de la voiture, nous sommes impressionnés par l'immensité des arbres tendus vers le ciel. Des hêtres majestueux entourent la prairie sur laquelle nous marchons tous les quatre. Nous sommes équipés d'un accoutrement qui n'est habituellement pas le nôtre. Nous ressemblons à des cosmonautes débarquant sur la Lune. Nous sommes raides et engoncés dans des doudounes trop grandes, coiffées de bonnets qui grattent et chaussées de bottes de pluie. Nous avançons côte à côte dans les herbes hautes et mouillées du Clos Mazur. L'agent immobilier arrive pour ouvrir la maison froide et humide. Elle n'a pas été habitée depuis un moment. C'est une maison à colombage avec un salon bas de plafond et une grande cheminée, une petite cuisine, une chambre en rez-de-chaussée pour les grands-parents et deux chambres à l'étage pour nous et nos parents. Chacun d'entre nous déambule d'une pièce à l'autre, cherchant à voir si nous pourrions y poser nos affaires et nous y sentir chez nous. Lorsqu'à la fin de la visite, nous nous retrouvons dans le salon, mon père, qui a pourtant déjà éternué une vingtaine de fois depuis notre arrivée, se tourne vers ma mère, puis vers l'agent et dit « On la prend ». Mes parents étaient souvent d'accord, et quand ils ne l'étaient pas, mon père dormait sur le canapé. Puis, je ne sais pas comment, tout rentrait dans l'ordre, et ma mère se pendait à nouveau à son cou. Ils s'étaient rencontrés en Algérie quelques années après l'indépendance, alors que mon père menait sa première mission pour les Nations Unies et que ma mère avait trouvé dans le même organisme un emploi de secrétaire bilingue. Elle n'avait plus 20 ans, mais 30 passés. Elle avait bourlingué, enseigné le français aux États-Unis parce qu'elle aimait le jazz, appris le russe à l'INALCO parce qu'elle était amoureuse de son cousin communiste, utilisé son image de jeune fille de bonne famille pour accompagner des porteurs de valises du FLN avant de travailler pour la CIMADE dans les bidonvilles de Marseille. Elle était foncièrement de gauche, quand mon père penchait plutôt à droite. Il avait longtemps été du côté des nantis, les riches propriétaires terriens pour lesquels il travaillait et à qui le communisme de Nasser avait fait perdre biens et privilèges. Mais pour chacun d'eux, l'autre représentait un monde différent, attrayant, et offrait la possibilité de la nuance. Pas d'utopisme, mais un monde plus juste, plus riche, plus ouvert et plus joyeux. La cuisine de ma mère. Nous sommes à table tous les quatre. Mon frère doit avoir 10 ans et moi 8. Ma mère a préparé un repas sain et équilibré, pas beaucoup de saveurs, un repas protestant comme elle seule en Italie, pays de la bonne chère, doit en préparer. Tout ce qu'il faut pour être en forme, mais sans le plaisir des papilles. Nous faisons, mon frère et moi, des expérimentations. Nous sommes capables de mélanger tout notre repas, petits pois, coquillettes, jambon, dans notre yaourt pour finir plus vite. Mon père, oriental et sensible à la gastronomie, s'est fait une raison. Il a épousé la femme la moins à même de nous régaler en cuisine. Il rit d'elle et de sa volonté farouche de bien faire. Il se lève et la prend dans ses bras. Elle rit avec lui. Elle se nourrirait de fromage et de fruits. C'est pour nous qu'elle s'applique, qu'elle croit bien faire en préparant de la cervelle bouillie, du foie de veau, des épinards et des choux de Bruxelles. C'est qu'elle se donne du mal. Ils dansent maintenant tous les deux entre la cuisinière et la table, esquissent quelques pas maladroits, amoureusement enlacés, tandis qu'attablés, nous chronométrons le temps qu'il nous faudra pour avaler notre yaourt repas complet. Triste novembre. Nous sommes assis, mon frère et moi, côte à côte sur mon lit. La journée a été longue. C'est long, une journée qui change votre vie. Je sens mes yeux craquelés d'avoir tellement pleuré. Je ne pensais pas qu'on pouvait ressentir autant de chagrin, qu'on pouvait avoir mal de tant de larmes. Jean Selim pose son bras autour de mes épaules. Il est si jeune et si frêle. Son corps est encore celui d'un enfant. Il a juste un peu de duvet sur le visage, prémisse d'une adolescence tardive. Nous sommes blottis l'un contre l'autre, maladroits, apeurés par la vie qui nous attend sans lui, et il me dit « Je suis là, moi ». Puis tout bas, comme pour lui-même, tout ira bien. Un appel téléphonique ce matin-là a transformé notre existence. Un petit coup de fil de ceux que l'on n'attend pas. Trop tôt pour un appel anodin. Je suis la seule debout à cette heure matinale. Il n'est pas encore 7 heures. Je me prépare pour partir au collège où je viens d'entamer mon année de 4e. Je réponds. Voix lointaine qui réclame ma mère en anglais. À cet instant, je pense encore que c'est lui, papa, qu'il a fait appeler une secrétaire de son bureau de Pékin, qu'il a mal calculé le décalage horaire. Je ne connais pas l'appréhension. Je ne suis pas encore suspicieuse. Ce jour-là, je le deviens durablement. Ma mère arrive, tirée de son lit à la hâte, t-shirt, culotte. Elle prend le téléphone, écoute, puis son corps se raidit. Elle s'agite, parle vite, sa voix se brise. J'entends ces mots qui s'opposent à l'autre, résistent, elle bataille ferme, elle ne veut pas croire que tout est joué là-bas, à l'autre bout du monde. Lorsqu'elle raccroche, mon frère qui nous a rejointes regarde en silence par la fenêtre. J'ai les yeux rivés sur elle. Nous sommes deux enfants qui aimeraient suspendre le temps pour ne pas entendre la phrase qui devient, seconde après seconde, plus inéluctable. Papa est mort. Nous y voilà. Propulsés dans le monde des mortels. Hiver 85. Cet hiver-là, il fait froid. Un bel homme, maigre à la longue barbe argentée, tente de se réchauffer sur un des bancs du jardinet en face de chez nous, son paquetage à côté de lui. Les affaires de mon père sont encore là, dans le placard. Mon frère, qui passe désormais un temps fou à la fenêtre, se tourne vers moi, son visage s'éclaire. Il part en courant dans la chambre des parents et revient quelques instants plus tard, un manteau à la main, un beau et long manteau noir en cachemire. Je l'entends qui descend 4 à 4 les marches du grand escalier blanc. Je regarde par la fenêtre. Il s'approche de l'homme, lui tend le manteau. L'autre sourit, se lève, l'enfile, le boutonne et se rassied satisfait. Mon frère remonte les étages à grandes enjambées. Maintenant, nous pouvons partir à l'école. Comme chaque matin, nous courons pour attraper le 94, puis le 60 ou le 62 qui nous mène près du lycée. Au fil du trajet, nous retrouvons nos copains de classe. Mais les matins de cet hiver-là, aucun de nous deux ne se mêle aux rires et aux discussions. Le plus étrange, ce n'est pas son absence. Nous sommes habitués aux absences de notre père. Mais c'est de ne pas le voir revenir, de ne plus entendre sa voix au bout du fil, sa voix lointaine avec l'écho des international phone calls d'antan. De ne plus recevoir ses lettres pattes de mouche sur du papier extra fin, air mail post. Non, en fait, le plus étrange, c'est son absence à elle. Parce qu'en raccrochant ce jour-là, ce triste jour de novembre, ma mère a quitté notre navire en même temps que lui. Elle s'est habillée, a prévenu les amis les plus proches, est descendue pour s'occuper des questions administratives, papiers à remplir, assurance, billets d'avion pour partir en Chine, rapatrier son corps et organiser le déménagement de ses effets personnels. Et elle n'est jamais complètement revenue. Quelque chose en elle a vrillé, invisible à l'œil nu, mais profond. En apparence, tout semble normal. Le ciel est toujours aussi clair. Passé les premiers jours où chacun est venu déposer un plat chaud, un bouquet de fleurs, un petit mot, notre vie continue. Mon frère et moi sommes entrés dans une phase de total freestyles. Nous sommes les survivants d'une équipe décimée, des combattants livrés à l'inconnu. Tous les jours, désormais, il m'attend devant le collège. Tous les jours, notre mère disparaît un peu plus. Voilà, nous écouterons la suite de ce roman avant qu'elle s'en aille demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.